Sur la première, le journal du matin, 7h39, ombre et lumière des technologies numériques. Personne n'aurait l'idée de s'en passer. Elles facilitent la vie à bien des égards avec des dérives, parfois comme la recrudescence de la cybercriminalité et des risques comme le relevé hier, par exemple, les services de renseignement israéliens avec Google Maps ou depuis son iPhone, on a désormais accès à des informations qui étaient auparavant du domaine exclusif des militaires. Solange Guernaut-Ielli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à HEC Lausanne, experte internationale en cybersécurité. Vous avez fait paraître il y a quelques jours ce livre « Techno-civilisation pour une philosophie du numérique » écrit, co-écrit avec René Berger, grand penseur qui a beaucoup pensé le web et toutes ses implications. Il est décédé au début 2009, René Berger. Bon, il y a deux versants à cette techno-civilisation. Je le disais, le côté obscur, c'est cette cybercriminalité. Est-ce que les inquiétudes qui concernent le cyberterrorisme, la cybercriminalité sont justifiées?
Alors effectivement, on peut penser qu'avec cette capacité de cacher des données dans d'autres données et de les véhiculer d'un bout à l'autre de la planète, eh bien le monde terroriste s'est accaparé ces technologies de communication déjà pour communiquer, pour planifier, pour s'organiser. Donc l'outil Internet est un fabuleux outil au service de la performance des entreprises, bien sûr, des individus, mais aussi des criminels, y compris du monde terroriste.
Est-ce que c'est en augmentation, ça ?
Alors certainement, par contre, il est absolument difficile d'avoir les chiffres nets de cette augmentation ou de l'état de cette cybercriminalité dans la mesure où beaucoup d'actions ne sont pas dénoncées, ne sont pas identifiées. Et donc la face cachée et la partie submergée de l'iceberg cybercriminel, je crois qu'on a du mal à l'estimer. Même les forces de police, notamment Interpol, ils estiment peut-être être au courant de 15% ou 20% de la réalité.
On parle de colis piégés. L'actualité nous parlait encore de l'interception et heureusement de ces colis piégés qui sont partis du Yémen, ça on arrive à le faire, le
oui.
Cyberterrorisme pas.
Oui, non, mais je crois qu'il ne faut pas non plus se tromper sur le mot cyberterrorisme. Pour l'instant, on n'a pas tellement vu d'action cyberterroriste. Ce qu'on a vu, c'est des terroristes utiliser l'Internet pour s'organiser, comme je venais de le dire, pour être performant. En revanche, les actions de cyberterrorisme risquent de venir si on n'est pas assez vigilant, si on ne déploie pas les mesures organisationnelles et de coopération internationale pour lutter contre.
Ça, c'est piloté via un ordinateur, par exemple, la destruction d'une centrale nucléaire,
oui,
l'envoi d'une bombe, c'est ce genre de choses.
Oui, ça pourrait être ça. C'est aussi combiner des attaques dans le monde réel, comme ça fait le terrorisme, avec après la paralysie des systèmes de communication et des secours, par exemple d'organisation des secours, ça va démultiplier le facteur de perte humaine.
Ça va arriver tôt ou tard, c'est ce que vous nous dites.
Ça peut arriver, oui.
Ça peut déjà maintenant.
Bien sûr. Oui.
Et aucun gouvernement n'est prêt à faire face à ça.
Je ne suis pas sûre. Enfin, je crois que tout le monde est sensible à cette question. Tout le monde en a un petit peu peur, mais la peur n'est pas la meilleure des conseillères non plus. Faire face, quand on s'imagine avec quel... Enfin, in extremis, ils ont pu récupérer ces colis. Comment pouvez-vous imaginer dissimuler des explosifs logiciels dans des produits logiciels normaux? Ça, c'est très dur. Je pense qu'il y a une véritable difficulté à identifier les menaces et les signaux précurseurs des menaces qui sont complètement dilués, distribués dans plein de systèmes.
Vous auriez une solution rapidement employable, si j'ose dire.
Je crois une solution, c'est d'être vigilant, d'être conscient, de prendre conscience de ses problèmes, déjà.
Mais le citoyen lui-même doit prendre conscience de ça aussi lorsqu'il envoie un mail, lorsqu'il transfère un mail.
Oui, tout à fait. Le problème se pose de la confiance dans ce monde dématérialisé, dans ces informations qui sont médiées par des infrastructures qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est difficile, quoi. C'est difficile de se poser de la question de savoir si c'est bien le bon interlocuteur, le bon site web, si cette machine n'a pas été parasitée par un programme qui pourrait déclencher des attaques à distance.
Il n'y a pas une culture de la méfiance. C'est-à-dire qu'on nous met un iPhone entre les mains, on nous met un ordinateur, quoi que ce soit, et on devrait aussi, parallèlement, peut-être instaurer une culture de la vigilance, une culture de la méfiance.
Oui, non, c'est pas une culture de la méfiance. J'aime pas trop ce terme, ni la méfiance ni de la défiance. C'est de savoir les limites des technologies et à quoi elles peuvent être détournées. Enfin, l'usage peut être détourné. Il faut le savoir. Il faut apprendre à vivre avec ce nouvel environnement qui devient un double de nous-mêmes, qui est un prolongement de nous-mêmes. Et je crois que c'est la réponse un peu qu'on a essayé d'apporter avec Monsieur Berger dans cet ouvrage, d'apprendre à vivre avec ces technologies qui nous envahissent, qui sont nous dans un prolongement avec d'autres autour de la planète.
Le risque que le virtuel devienne pour certains une réalité plus tangible que le concret, ça existe.
Effectivement, ça existe déjà. On voit bien aussi ces systèmes d'addiction à certains environnements, à certains jeux, à certains univers qui, quelque part, sont plus jolis que le réel dans lequel nous vivons. Mais je crois qu'il faut qu'on s'approprie ce virtuel et qu'on fasse que notre réel soit encore plus beau que le virtuel qu'on pourrait s'imaginer.
Et c'est tout l'enjeu de votre démarche, donc, dans ce livre Techno-Civilisation, pour une philosophie du numérique, pour une civilisation du numérique. Comment faire en sorte que cette techno-civilisation soit aussi un humanisme? l'humanisme ?
Eh bien, moi, je crois qu'il faut sortir de cette science omniprésente, cette technologie qui fonde notre économie. Peut-être avoir une autre vision, une vision de performance des technologies au service de l'économie et de la profitabilité. Rechercher une autre valeur de sens au travers de ces technologies. Je crois que certains artistes se sont bien appropriés l'ensemble de ces technologies pour exprimer cette quête de sens. Et je crois que nous, citoyens, on devrait aussi se poser cette question de l'Internet au-delà de l'instrument qui permet de mettre en relation et de donner du sens à cette relation.
Le réseau social, c'est déjà une quête de sens ?
Oui, en tous les cas, c'est une quête de reconnaissance, de contact, de lien avec d'autres, y compris d'autres qu'on a perdu de vue, qu'on ne connaît pas ou qui sont des potentiels à venir. Quoi.
Avec tout un tas de dangers aussi, c'est qu'on s'y perde soi-même.
Oui, tout à fait. Si on donne plus d'importance à ce lien qu'au contenu qui est véhiculé par le lien, ça, on peut se perdre. Je trouve que la notion d'ami avec les réseaux sociaux est en train de changer. Ça n'a plus le même sens que d'une façon traditionnelle.
Donc, découpler le web de l'économie, c'est ce que vous nous dites. On va refaire de la poésie via Internet.
Voilà, mais c'est le but, ouais, je crois. Ça serait bien.
Et comment ?
Justement,
faites-nous rêver un peu.
Alors, on se pesait en prenant de la distance par rapport à cette technologie. Moi, je trouve avec la technologie, pour l'instant, on est dans la course au dernier équipement, à la modernité, mais sans définir cette modernité. Et on reproduit des modes de pensée complètement archaïques avec des outils qui nous permettraient de réinventer la vie et la relation à autrui.
Moi, j'ai envie de citer, j'ai envie de citer un passage du livre qui s'appelle « Au-delà de la fonction instrumentale de l'ordinateur », les notions de créativité, d'interactivité, d'intelligence, en attendant peut-être celles de conscience, de sentiment, d'émotion, jusqu'ici définies dans le seul cadre de référence humain, devront être réaménagées, ou selon toute vraisemblance, aménagées en fonction de l'évolution technologique en cours. Vous parlez des ordinateurs et vous dites en attendant peut-être celles de conscience, de sentiment, et d'émotion.
Mais oui, je crois que c'est aussi vers là qu'on va aller, puisqu'ils sont de plus en plus capables de simuler nos comportements, nos émotions. Donc pourquoi pas les intégrer et faire en sorte qu'elles soient des vraies parties de nous-mêmes et des projections de nos rêves.
Et là, on n'est pas dans la science-fiction ?
Non, je crois pas. La science-fiction, c'est déjà dépassé. Hein.
J'adore cette formule, vous restez avec nous. Bonjour Stéphane Delurie et Jean-François Moulin.
Bonjour.
Vous commentez la presse avec nous, Solange Guernaouti-Elie, la presse romande et la presse alémanique. Eh ben, on va commencer avec les réseaux sociaux, partir, mourir.
Partir, c'est mourir un peu, chantait Yves Montand. Être sur Facebook, ça peut être ne mourir qu'un peu, fredonne le journal La Liberté. Oui, explique La Liberté, les réseaux sociaux d'Internet comme Facebook ne s'arrêtent pas avec la vie. Le quotidien s'intéresse à son tour à cette déviation facebookienne. Il y aurait 4 millions de fantômes sur Facebook, au grand désarroi des proches d'internautes, décédés qui continuent parfois une existence cybernétique sur la toile, au fond des sortes de clones plutôt, de Beetlejuice. Vous savez, c'est le personnage du film de Tim Burton, peut-être en moins exubérant. Témoignage donc recueilli par Nicolas Maradan, comme celui de cette femme qui continue de voir apparaître le nom de la sœur d'un ami décédé il y a 3 ans, ou cette fribourgeoise qui a constaté que le profil d'un ami récemment décédé est toujours accessible à travers le réseau social. Une situation résumée par cette formule sortie de l'imagination du dessinateur de La Liberté. Les paroles s'envolent, les profils restent. MDR. Alors j'ai appris ce matin que MDR, ça voulait dire...
Ça veut dire
mort de rire.
Mort de rire ?
Vous ne le saviez pas ? Vous voyez ?
Ah, moi qui suis nul, je parle jeune, mais pas toujours. Quoi.
Donc, bon. On a un point commun.
Remarquez, je l'ai appris aussi. Hein. Ah, mais je suis plus jeune depuis longtemps.
Je me suis fait pourtant rire au nez tout à l'heure. On dit quoi, MDR, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est vrai que c'est mort de rire. Hanter le web, c'est donc un état d'esprit. Reste, écrit notre confrère, que face à ces tendances, les réseaux sociaux, Facebook en tête, ont compris l'influence de gérer aussi la mort virtuelle de leurs utilisateurs. Mais avant de s'occuper de l'au-delà, Internet infatigable, l'orne du côté de la médecine. Avant la mort, il y a donc la médecine. Et là, nous explique l'enquête d'Anne-Muriel Brouet dans 24 heures, Internet n'a pas encore détrôné le médecin. Ouf. Si, bien sûr, à la moindre égratignure, 7 Suisses sur 10 se ruent sur Internet, le praticien est loin d'être tombé de son piédestal. Bref, face à un problème de santé, 90% des gens se tournent vers leur médecin et seulement 17% font confiance à Internet, mais à l'heure où la téléconsultation se généralise, le lien avec Internet devient de plus en plus étroit, constate notre consoeur. La pratique de la médecine en ligne, qui vient d'être autorisée en France, est déjà en vigueur en Suisse, où le domaine est en pleine expansion. Je voudrais juste ajouter, tout à l'heure vous parliez de poésie avec le net, eh bien on apprend dans une enquête que des chercheurs anglais ont discerné chez nos ancêtres de Néandertal de la compassion.
Est-ce que l'ordinateur sera capable un jour de compassion ?
Certainement, oui.
Mais comment, franchement ?
Non, avec des techniques d'intelligence artificielle et de simulation. Déjà, on voit bien que les ordinateurs mis en réseau raisonnent plus ou moins. On essaye de calquer le raisonnement humain sur ces réseaux d'ordinateurs. Et je crois qu'on va arriver vers ce raisonnement, cette capacité de raisonnement. Et c'est peut-être là aussi le danger d'être dépossédé de ce raisonnement et de tout médier par ces systèmes informatiques. Et on le voit déjà de la médecine en ligne. C'est déjà quelque chose. C'est déjà un pas vers un potentiel de confiance plus important dans ce médecin dématérialisé que son médecin de proximité. Et on peut avoir des transgressions assez importantes. Et on l'a vu tout à l'heure, on l'a évoqué avec la mort. Le mort qui est toujours vivant sur Facebook, ça interpelle. Regardez le site, les pages facebookiennes de M. Berger, de René Berger, qui est toujours présent sur Facebook.
Et qui sont alimentées.
Et qui sont alimentées, oui, par des amis qui lui sont proches. Je crois que les parents, en tous les cas, peuvent demander que les page puisse être inaccessible ou le profil désactivé, mais c'est presque quelque chose qui dépasse la personne. Si l'auteur n'a pas demandé à être désactivé après sa mort, pourquoi prendre sa décision à sa place ?
C'est une sorte de cimetière virtuel réalimenté en permanence ?
Oui, plus ou moins en permanence, en fonction de ceux qui ont envie de l'alimenter, mais pourquoi pas ?
Je vous pose pas la question de l'âme. Est-ce que les ordinateurs auront un jour une âme ?
On l'a vu déjà avec le film 2001 et l'Odyssée de l'espace. L'ordinateur avait déjà une âme. Hein,
oui, HAL, prenait exactement le contrôle sur exactement le commandant de bord. Oui.
Voilà.
Ah oui, mais c'était un dérèglement informatique.
Oui, mais qui pourrait devenir ce qui serait la norme dans quelques temps.
Et ça, c'était en 1968, hein, quand vous parliez de la science-fiction qui était déjà dépassée. On continue avec ces petits robots qui égayent notre quotidien.
Bah oui, ils sont partout, les automates, dans la cuisine, dans les cafétérias, au bureau et aussi au bord des routes. Oui, vous savez, ces robots qui mesurent la vitesse des voitures et qui sont chargés, pour le compte de la police, de dénoncer ceux qui ne respectent pas les limitations. Ces radars sont perceptibles à leur flash ou leur petite lumière rouge qui vous titille la pupille et le porte-monnaie. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a trop en Suisse. C'est en tout cas l'avis d'une septantaine de parlementaires bourgeois. Ils ont déposé une motion demandant que les radars ne doivent servir qu'à des fins de prévention. Les contrôles de vitesse ne devraient être faits que dans les endroits dangereux où l'on dénombre beaucoup d'accidents. Or, sur les 800 radars de Suisse, 300 ne servent qu'à remplir les caisses de l'État, dénonce dans le Tages-Anzeiger le transporteur UDC Ulrich Kinzendaner, et de donner en exemple, tiens, le tronçon d'autoroute entre Lausanne et Genève. Et puis, les robots ne sont pas présents uniquement sur la Terre. Ils colonisent aussi les autres planètes, à l'image de Mars Rover et Opportunity, petit véhicule qui se déplace lentement, très lentement, depuis 2400 jours sur la planète rouge. Portrait dans le Bundel Tages-Anzeiger de celui qui pilote depuis la Terre ce petit engin qui sera mis à la retraite l'an prochain. Un petit robot qui, si l'on en croit notre confrère, est l'un des succès les plus marquants de la NASA.
Ça vous fait rêver ? Ce genre de choses, Solange Guernaoui-Thierry.
En tous les cas, ça m'interpelle. Oui, déjà, en tous les cas, pour rebondir ce que vous disiez sur la prévention, on voit bien que les ordinateurs contrôlent notre vie. Peut-être va-t-il la régenter. Et là, on apprend qu'ils sont effectivement très présents dans l'univers et dans l'espace. Et ça nous dépasse complètement. Mais ça devrait nous interpeller dans ce sens, à donner à ces instruments qui sont pilotés par d'autres ordinateurs et encore, bien sûr, par des personnes derrière.
Bon,
ce super contrôle, il existe de facto. Et on l'a vu notamment aussi avec les réseaux sociaux. Il y a un vrai pouvoir, en tous les cas un pouvoir marchand, qui est donné à ces systèmes.
Beaucoup d'écrivains de science-fiction se sont épanchés là-dessus, Philippe K. Dick et d'autres. La machine prendra un jour le contrôle sur l'homme. C'est aussi votre prophétie ?
Non, je ne suis pas prophète dans le domaine. Si on y prend garde, en tous les cas pour certains, certainement. Mais c'est déjà le cas quand on voit l'addiction de certains, notamment de jeunes, qui ne peuvent plus se passer de leur ordi, de leur téléphone, de leur gadget électronique. C'est déjà ça.
Face à ça, il reste l'éducation.
Oui, puis une présence réelle. Il ne faut pas déléguer au virtuel ou à l'ordinateur ce que nous, éducateurs, nous, professeurs, nous, parents, on doit faire.
On vous fait confiance.
Merci.
Du suspense, Jean-François Moulin, autour de la proposition 19. Qu'est-ce que c'est ?
La proposition 19 en anglais, est soumise aujourd'hui aux 17 millions d'électeurs californiens et elle fait presque de l'ombre aux élections législatives américaines. C'est ce que note le journal Le Temps. Alors la proposition 19 vise ni plus ni moins à légaliser et à dépénaliser la consommation de marijuana dont l'usage, rappelle Le Quotidien, est réservé à des fins thérapeutiques depuis 1996. Comme l'alcool, la marijuana serait donc encadrée et taxée. Et ça peut rapporter gros. Si les électeurs se prononcent en sa faveur, eh bien la Californie, qui compte environ 15% de la consommation de la marijuana dans le pays, deviendrait le premier État à légaliser ce qu'on peut appeler son usage récréatif. Le suspense du scrutin est à son comble, note Deborah Soibank. Des deux côtés, on y croit mordicus, avec donc, et c'est ça qui est intéressant, l'éventualité, résume la journaliste, d'une entrée définitive dans les mœurs de la contre-culture hippie. On n'en est pas encore là de ce côté de la planète. En Suisse, on se contente, écoutez bien, des bienfaits des feuilles mortes. Il est horticulteur, il s'appelle Jean-Luc Pasquier. Dans les colonnes de la Liberté du quotidien jurassien notamment, il lance un appel à l'utilisation des feuilles mortes. Au lieu de les éradiquer, utilisez-les, clame l'horticulteur. Attention, non pas pour les fumer, mais pour accueillir une famille de hérissons, par exemple.
Oui. Bon, l'animal n'a aucun lien avec l'informatique, jusqu'à preuve du contraire, peut-être.
Je me porte en faux.
Vous n'êtes pas d'accord ?
Mais non, les chiens sont pucés, les chevaux sont pucés. Ils ont leur puce RFID. Ils
mais
ont
ça
des
passe
données.
Par l'homme, quand même.
Oui, mais on les contrôle. Les animaux sauvages, on les suit à la trace. Ils sont plus du tout sauvages. Ils sont tous informatisés, oui. Les oiseaux y compris.
On est foutus ? Ils sont foutus.
Non, je dirais pas ça. Non, faut justement pas perdre cette jubilation du futur possible et qui sera un futur meilleur puisqu'on maîtrisera ces technologies.
Mais c'est toute l'ambiguïté, si j'ose dire, que votre propos ne soit pas mal reçu. Il faut un humanisme, mais il faut aussi d'un autre côté, et c'est ce que vous faites, montrer tous les dangers de ce que ces machines, de ce que ces iPhones, de ce que ces Facebook et autres peuvent nous occasionner.
Oui,
c'est difficile aussi de faire passer ce message, c'est sensible.
Absolument, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer sur le mirage technologique. C'est faux.
Il y en a beaucoup qui le font.
Oui, parce que c'est rassurant, parce que c'est du tangible, c'est dans l'immédiat, c'est du plaisir immédiat, mais c'est pas sur du plaisir sur du long terme, c'est pas sur de l'avenir, c'est pas sur du durable, du développement durable. Moi, je crois qu'il faut ne pas hésiter à se reposer des questions qui fâchent, qui sont difficiles à répondre, qui sont des questions complexes, mais sur lesquelles la technologie ne peut pas répondre. Une technologie ne peut pas répondre à un problème humain. Ça va être une des facettes de la réponse, mais pas uniquement. Et il faut cadrer, il faut des systèmes législatifs, il faut organiser, il faut faire quelque chose, quoi, mais pas implanter des puces dans les êtres humains ni dans les animaux.
Il paraît que l'ambiance au Conseil fédéral est mauvaise.
Le Conseil Nouvelle Mouture n'a même pas encore siégé, que la collégialité est déjà mise à mal. Le Bund, le Tagesanzeiger se font l'écho ce matin de la colère des partis du centre-droite contre Micheline Calmiret. Et ce qui fâche tant le PLR, le PDC et le PBD, ce sont les critiques de la conseillère fédérale socialiste contre ses collègues. C'était samedi à Lausanne lors du congrès du PS et elle s'en est prise à la majorité de droite du gouvernement au sujet notamment de la répartition des départements. Alors pour Fulvio Pelli, président PLR, le Parti Socialiste a un gros problème de crédibilité lorsqu'il se met à critiquer des décisions d'un gouvernement auquel il fait partie. Bref, Micheline Calmiret doit faire preuve de collégialité. À la veille de la première séance, l'ambiance est pour le moins tendue. Et c'est pas la nouvelle photo du collège gouvernemental qui va rassurer. Presque tous les journaux alémaniques la publient aujourd'hui. Une image, tenez-vous bien, fabriquée à l'aide de Photoshop, tout un symbole. Les deux nouveaux apparaissent grâce à la magie de l'informatique. On y revient toujours.
Photoshop,
oui, la magie de l'informatique, oui, c'est un peu ça. Mais effectivement, il ne faut pas cacher les limites et les distorsions de sens qui peuvent en aboutir, quoi.
Allez, on part du côté de Paris. Bonjour Mehmet Gultas.
Bonjour.
Correspondant sur place, on revient sur Nicolas Sarkozy, le président qui était la cible d'un colis piégé hier, colis intercepté à Athènes. La presse française ne s'en émeut pas outre mesure.
C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Contrairement aux journaux télévisés hier soir, ni la presse régionale, ni les quotidiens nationaux n'accordent à ce paquet piégé leur une. Libération en fait une brève en page 11. Dans le Figaro, aucune trace de la poudre au sommaire du journal. Simplement le récit d'une correspondante à Athènes. Alors pourquoi une telle retenue? Il faut dire que le porte-parole de la police grecque a, si je puis dire, désamorcé, hein, le caractère explosif de la nouvelle. Le colis avait peu de chances de parvenir à son destinataire. Même si le paquet avait réussi à passer entre les mailles du filet de sécurité grec, les services de la présidence française, qui contrôlent les lettres et les colis adressés au président, auraient sans doute intercepté le paquet. Autre explication, les expéditeurs sont membres d'un réseau anarchiste grec. On est donc loin de la menace islamiste qui aurait pu susciter davantage de commentaires dans les journaux. Bref, on a envie de dire que sur ce coup, en tout cas, la presse et l'Élysée ont adopté une position commune. Pas de commentaires.
Merci Mehmet Gultas. L'informatique pour résoudre ce genre de questions ?
Oui et non. Enfin, c'est surtout une démarche humaine et de personnes vigilantes qui permettent de répondre à ce type de questions.
On va relaisser l'homme au centre de tout ça.
Ah,
pour
moi,
l'instant.
Je crois, c'est l'importance. Il ne faut pas l'oublier dans tout ça.
Merci infiniment d'avoir été notre invité. On rappelle le titre de cet ouvrage, coécrit avec René Berger, qui est décédé il y a une année. Techno-civilisation pour une philosophie du numérique, c'est paru aux presses polytechniques et universitaires romandes. Vous êtes aussi professeur à HEC Lausanne.
Merci à
bonne
vous.
Journée.
Bonne journée. Au revoir.